Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. Je suis ravie de te retrouver et aujourd'hui, je vais m'adresser tout particulièrement à toi si tu te lances en tant que prof de yoga ou encore à toi si tu as déjà fait tes premiers pas en tant que prof de yoga mais pour l'instant tu n'as aucun follower sur les réseaux sociaux ou en tout cas pas de follower qualifié par rapport à ton activité, peut-être aussi aucun abonné encore dans ta liste email, bref, pas encore de communauté ni d'élèves, eh bien on va voir aujourd'hui et cet épisode peut être fait pour toi aussi si tu en es là. On va reprendre un petit peu les choses dans l'ordre pour t'aider à avancer avec stratégie, avec vision et de manière la plus simple possible. Lorsqu'on démarre une activité, non seulement on commence de zéro, et ça c'est pour tout le monde pareil, mais en plus c'est vrai que souvent on ne sait pas dans quelle direction aller, par quoi commencer, où mettre son énergie, et en plus on n'a pas forcément beaucoup de budget pour se faire accompagner, donc on a vite l'impression que ça va être impossible de se développer. Et ce que je veux qu'on voit ensemble aujourd'hui, c'est que c'est faux parce que c'est tout simplement que tu as besoin de savoir par quoi commencer quand ça te semble vraiment une montagne et que tu n'as pas forcément les moyens d'investir sur toi pour te faire accompagner ou d'investir dans des grands outils. Alors peut-être que tu mettras un peu plus de temps à développer dans ce cas-là, mais en tout cas, on va voir aujourd'hui que c'est possible quand même d'y arriver. Alors, avant de démarrer, j'en profite pour t'inviter à ma prochaine et nouvelle masterclass, une masterclass de nouveau gratuite que je fais en partenariat avec Eversport. C'est un petit peu notre masterclass de rentrée et cette année, j'interviendrai pour te parler de comment vendre tes cours de yoga grâce à l'emailing. Et je vais même te dévoiler un petit hack exclusif dans cette masterclass que je n'ai encore partagé nulle part. Ni dans mon programme YogiBiz Live, ni dans mes coachings, dans mes accompagnements ou encore dans mon contenu gratuit. Grâce à cette masterclass, ce que tu vas apprendre, eh bien, c'est comment obtenir l'email de ton élève idéal. C'est trois moyens d'utiliser l'emailing pour vendre tes cours et tu verras qu'il n'y a pas que la newsletter. C'est comment aussi ne plus jamais être à court d'idées pour ta newsletter. Et puis, eh bien, on finira par mes trois meilleurs hacks pour attirer des abonnés à ta newsletter, dont le fameux hack exclusif. Alors, si ce programme te plaît, que tu n'as pas encore de liste email ou que tu as déjà une liste email mais que tu aimerais mieux la développer, eh bien je t'invite tout de suite à mettre cet épisode, à mettre le podcast sur pause un instant et à aller directement cliquer sur le lien dans ma bio pour t'inscrire gratuitement à cette masterclass. Donc comment vendre tes cours de yoga grâce à l'emailing. Cette masterclass aura lieu le 16 septembre à 11h. Il y aura bien évidemment un replay. L'avantage d'être en direct, c'est que tu pourras me poser tes questions et puis tu peux aussi retrouver ce lien pour t'inscrire dans ma bio sur Instagram, sur mon compte @yogibizcoaching si tu as l'habitude de me suivre là-bas. Donc j'espère vraiment t'y retrouver parce que j'ai plein de choses concrètes et à te partager qui te permettront vraiment de développer ta liste email. Alors revenons à notre sujet du jour, donc par où commencer quand on se lance en tant que prof de yoga, quand le champ des possibles est immense et qu'on ne sait pas dans quelle direction mettre son énergie au départ. Je vais donc tout de suite te donner quelques pistes à suivre pour passer à l'action dès maintenant et développer ton entreprise même si tu démarres et même si tu n'as qu'un petit budget. Alors tu verras tout au long des différentes étapes qu'on va voir, L'idée, c'est vraiment de garder ça simple, hein, de rendre les choses simples. Keep it simple, comme dit le mantra. Vraiment, on va avancer avec simplicité dans toutes ces étapes. On pourrait découper ces étapes en 4 parties. Je vais te parler rapidement de tout ce qui est les fondations, on va dire un petit peu légales et financières, mais vraiment très rapidement. Et ensuite, on rentrera dans les étapes pour te faire un business plan simplifié. Encore une fois, j'insiste sur le mot simple. Et puis, on verra ensuite aussi comment... Donc, networker et créer des connexions, t'offrir de la visibilité dans ton activité, ça peut être vraiment un booster au démarrage et le tout en étant gratuit. Et enfin, la dernière étape, comment obtenir tes premiers clients en mettant en place des systèmes ou des process aussi simples pour convertir. Donc, première étape, on va dire un petit peu les fondations de ton activité. Je dirais que la première action que tu peux faire, qui n'est pas déplaisante, c'est de choisir ton nom de business, de choisir ton nom de marque, ton nom d'activité, ton nom d'entreprise. Alors, ce ne sera pas forcément ton nom d'entreprise, parce que par exemple, si tu souhaites être micro-entrepreneur, tu mettras tout simplement ton prénom et ton nom, mais plutôt le nom avec lequel tu veux te faire connaître. Et donc là encore, je te conseille de ne pas ni procrastiner là-dessus, ni de overthinking, comme on dit en anglais, hein, de vraiment d'en faire tout un monde. Tu peux tout simplement utiliser ton prénom et ton nom. C'est très bien, et y rajouter par exemple à ton nom ou à ton prénom le mot yoga. Tout simplement, ça peut être aussi simple que ça, comme par exemple yoga avec Cécile. C'est vraiment un bon point de démarrage, parce que ce qui compte, c'est que ce soit explicite et facile à mémoriser, en fait, d'accord ? Donc yoga avec Cécile, quand la personne te connaît, c'est que tu t'appelles Cécile, c'est très simple. Et surtout, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'utiliser ce nom partout. C'est-à-dire, ne commence pas à t'appeler yoga avec Cécile d'un côté et puis yoga Cécile de l'autre. Même si ça se ressemble, le mieux, c'est d'essayer d'homogénéiser ton nom partout où tu vas être présente. Par exemple, que tu achètes un nom de domaine, que tu te crées une liste email, que tu sois sur plusieurs réseaux ou autres. Même si tu verras, on va pas forcément partir dans ce sens-là dans l'épisode d'aujourd'hui, mais vraiment... simplifier ce nom, et dis-toi aussi que tu n'es pas marié à ce nom et que tu pourras très bien, quand l'inspiration va venir peut-être ou les choses vont évoluer, te donner la permission aussi de le changer de la même manière et de le faire évoluer aussi. Donc ne procrastine pas trop, trouve un nom qui convient, qui suffit, qui est suffisamment explicite, et passe à la suite. La suite, c'est justement de décider ta structure juridique, ta structure légale. Donc là, je rentrerai pas dans les détails, parce qu'en fonction de ton cas personnel, selon si par exemple tu touches le chômage, si c'est une reconversion, si tu te lances dans ton activité, si tu vas louer une salle ou pas, etc., etc., il peut y avoir différentes options. Je te conseille en revanche de te faire accompagner, de te faire aider, de te faire conseiller, voire même de prendre plusieurs conseils, et tu peux avoir tout ça gratuitement, mais de prendre plusieurs conseils pour savoir dans quelle direction aller, et de pouvoir éventuellement comparer différents systèmes. Donc je ne rentre pas dans cette partie-là, parce que c'est pas ma zone de compétence. Et un dernier conseil que je peux te donner, parce que je trouve que c'est important, c'est de dissocier tes comptes en banque entre tout ce qui est perso, et d'avoir un compte vraiment professionnel pour ton activité, pour établir tes factures, mais aussi pour acheter tout ce dont tu auras besoin avec ton business. Même si au début, en micro entreprise par exemple, tu ne déclareras pas tes dépenses, c'est quand même important que tu en aies conscience et que tu suives tes finances de cette manière-là, entre ce qui rentre et ce qui sort, lié directement à ton activité. Tu peux par exemple prendre un compte en ligne, choisir une banque en ligne, surtout au début pour ton activité de prof de yoga. J'ai choisi moi par exemple de travailler avec Quanto, et j'en suis très satisfaite. Donc ça, c'est un petit conseil bonus que je te recommande, au même titre que je te recommande aussi, soit de déléguer tout de suite la gestion de tes factures, le suivi de ton chiffre d'affaires, etc., soit d'utiliser un logiciel et de pas faire ça à la mano, à l'arrache, sur Excel, sur Word, vraiment d'avoir des choses automatisées qui te feront gagner un temps fou. Et même si au début c'est quelques factures seulement, si demain c'est 30, 40, 50 factures, ça serait dommage de passer 3 jours sur ta comptabilité. Donc voilà, en fonction de ce que tu peux te permettre d'investir, alors attention, hein, c'est pas forcément très cher ce genre de logiciel, hein, ça peut être pour une poignée d'euros par mois, même si je sais que ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait des dépenses, mais c'est aussi facilitateur, et pendant que tu passes pas 3 jours à faire de la compta, tu peux aussi donner des cours de yoga et du coup générer du chiffre d'affaires. Donc c'est un petit peu un coup d'opportunité. Alors, on rentre directement maintenant dans le vif du sujet. Donc, deuxième étape, une fois qu'on a fait ces premières étapes un petit peu plus fondation légale, on va dire, et juridique et financière, eh bien, on va maintenant donc se créer un business plan simplifié. Alors, vraiment, hein, c'est pas le business plan chronophage. Là, je vais juste te donner quelques étapes pour savoir dans quelle direction tu vas et surtout voilà pour pas te disperser, pour optimiser ton énergie et aller à l'essentiel. Donc la première action à faire, c'est de considérer ta niche. D'accord ? Donc considérer ton positionnement, avec qui tu veux travailler, quel problème tu veux résoudre. Et donc comment tu veux te positionner, pourquoi tu veux être connu, comment tu vas te différencier. C'est ça, considérer sa niche, hein, c'est cet ensemble de choses-là. Alors, il est fort probable qu'à ce niveau-là de ton business, peut-être que tu as vraiment un sens, enfin une idée très très large de ta niche, ou alors même que tu te sens encore complètement confus ou confuse avec ce concept, et c'est normal. La seule chose que je te recommande dans ce cas-là, c'est que tu vas partir donc au sens large du yoga, et peut-être du yoga que toi tu enseignes, d'un type de yoga que tu as appris. Ce que je te conseille, c'est que la moindre occasion à laquelle tu vas échanger avec des gens, donner des cours, même si c'est des amis, de la famille, etc., ou même encore tes anciens collègues, c'est vraiment d'avoir conscience que tu as besoin d'identifier ce qui te plaît, ce qui résonne pour toi, les cours dans lesquels tu te sens mieux, là où tu sens que tu apportes le plus de choses, les mots qui ressortent aussi de tes différents étudiants, de tes différents élèves à la fin des cours, etc. Donc c'est de prendre conscience et de savoir que tu dois observer systématiquement tout ça. Après chaque cours, après chaque workshop, après chaque interaction que tu auras avec des gens intéressés par le yoga. Et petit à petit, en fait, ça va résonner en toi. Tu vas savoir avec quel type d'élève tu te sens mieux, dans quel type de cours tu te sens mieux, dans quel format de cours, selon ce que tu enseignes, ce que tu dis, etc. Tout ça mis bout à bout, petit à petit, il y a quelque chose qui se dessinera et qui te donnera des orientations claires sur ce que tu préfères et sur ce qui te fait vibrer. Donc pas de panique au début si c'est encore un peu flou. L'essentiel est d'avoir conscience que tu as besoin d'identifier tout ça et donc tout de suite d'écouter tes observations, entre guillemets. Après, peut-être que tu as fait ton yoga teacher training en sachant déjà tout de suite pourquoi tu le fais et donc à qui tu veux t'adresser, qu'est-ce que tu veux apporter à ces gens-là, pourquoi tu veux enseigner. Et dans ce cas-là, enfin si c'est ton cas, eh bien c'est très bien de clarifier tout ça pour savoir donc in fine quel problème tu vas résoudre avec ton yoga, qui tu veux aider, qui a le plus besoin de toi avec ton yoga, enfin à qui tu vas pouvoir apporter le plus de choses. Et si toutefois c'est pas un vrai problème ou une vraie problématique, comme par exemple de la gestion de stress ou encore un problème physique comme l'endométriose, comme peut-être la scoliose, comme la ménopause, etc. Tu vois, si c'est pas vraiment une problématique dans la vie des gens, ça peut être aussi quelque chose d'aspirationnel, c'est-à-dire un objectif que les gens ont, comme par exemple tout simplement réussir à faire le grand écart ou réussir à faire le handstand. Ça peut être donc un objectif de réussir à faire quelque chose, une envie de réussir à faire quelque chose, et puis par exemple aussi le réussir en rapidement, ou en tout cas en ayant justement tout de suite la bonne méthode pour y arriver, plutôt que se disperser à regarder des vidéos YouTube clairsemées et puis finalement ne jamais avoir le bon protocole pour réussir, je sais pas, à atteindre son grand écart en 3 mois. Ok, donc ça peut être aussi quelque chose comme ça de plus aspirationnel. Donc ça peut être une problématique, une vraie problématique. Alors plus c'est une problématique, plus t'as de chances de te développer rapidement. Si c'est quelque chose d'aspirationnel, un petit peu moins, mais ou en tout cas, ça sera peut-être pas la même. Ce sera pas forcément facile de facturer à la même valeur, mais c'est aussi intéressant de t'orienter sur ce type de niche là. Et puis encore une fois, c'est pas parce que aujourd'hui tu prends une direction que tu pourras pas en prendre une autre dans quelques mois ou quelques années. Donc c'est tout à fait ok aussi de tester au début. Donc voilà, deux options, hein. Soit t'es dans le flou et tu vas devoir vraiment, comme t'as conscience de ça, c'est déjà très bien et tu vas pouvoir observer ce qui te convient le mieux, à qui t'apporte le plus de valeur, ce qui fonctionne le mieux, avec quel type de client tu résonnes le plus. Soit tu sais déjà et là, bah, à toi de rentrer très vite dans ton positionnement par rapport à la problématique que tu résous ou à l'aspiration à laquelle tu réponds. Et dans la connaissance du coup de ton client idéal. Ce que tu peux retenir, c'est que ta niche, c'est l'intersection entre le problème que tu résous et quelle catégorie de personnes tu aides à résoudre ce problème. Donc deuxième action, deuxième étape, maintenant il s'agit de décider comment tu vas travailler avec tes clients. Entre autres, ça veut dire quelles offres tu vas proposer. Donc, il s'agit de définir le type d'offre que tu vas proposer. Alors, la première chose à faire pour définir le type d'offre que tu vas proposer, c'est d'abord de prendre en compte, toi, comment tu veux vivre. Tu n'es pas devenu prof de yoga pour t'imposer des horaires qui ne correspondent pas, par exemple, à ta vie de famille, pour t'imposer des déplacements qui ne te conviennent pas, pour t'imposer un nombre de cours qui va te conduire directement au burn-out. Tu n'es pas aujourd'hui devenu prof de yoga et tu n'es pas en train de créer ta propre activité et d'être ton propre boss pour justement revenir dans des choses ou aller vers des choses qui ne résonnent pas avec qui tu es et avec ta vision de là où tu veux aller et de comment tu veux vivre. Donc moi, je t'invite vraiment déjà à brainstormer là-dessus. C'est-à-dire, par exemple, si pour toi, c'est important d'être avec tes enfants le soir ou le matin, eh bien, tu vas pas faire des cours collectifs à 18h ou à 19h, ok ? Si pour toi c'est important de voyager, de bouger, que tu veux te sentir libre, eh bien tu vas plutôt privilégier une activité 100% online que éventuellement mettre le curseur entre du présentiel et du online, même si peut-être que selon là où tu voyages, tu décideras de temps en temps de faire des cours découvertes, d'organiser une retraite, d'organiser un workshop, ça sera toujours possible, mais tu vas commencer à fonder ton activité, ton système sur plutôt donner des cours en ligne, ok ? Donc voilà, de la même façon, selon si tu es à l'aise avec des plus gros groupes ou des moins gros groupes, selon si tu aimes discuter avec les gens, tu vas choisir par exemple plutôt du live ou plutôt de la visio, et ainsi de suite. Donc vraiment, prends en compte qui tu es, comment tu fonctionnes, là où est ton potentiel, là où tu te sens à l'aise, ton schéma de vie, là où tu veux aller aussi dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, ce vers quoi tu veux tendre, quel est l'équilibre entre guillemets que tu cherches. Et en fonction de ça, et en fonction, bien évidemment, dans un deuxième temps, des gens que tu veux aider, peut-être que tu ne proposeras pas les mêmes cours, pas les mêmes horaires, pas le même temps de cours, selon que tu aides des mamans, des jeunes mamans débordées qui doivent s'occuper, qui sont à la maison, qui doivent s'occuper de leurs enfants, etc., ou des seniors, ou des personnes archidynamiques qui ont une vie active remplie, etc. Donc à toi aussi, ensuite, hein, de faire un petit Tetris entre ce que toi tu veux, qui doit rester la priorité, hein, à la limite, il vaut mieux aussi orienter sa niche en fonction de ce qu'on veut soi, plutôt que l'inverse, sinon de toute façon, ça, il y a un moment donné où ça coincera. Donc voilà, trouver... étudier en fait, hein, ces deux pôles-là, ce que tu veux, toi, ce qui correspond à ta vie, à ton fonctionnement, à tes aspirations, et puis si tu as déjà une idée un peu des personnes à qui tu veux t'adresser, bah, te poser la question de quel est leur emploi du temps, comment elles fonctionnent, qu'est-ce qui est le mieux pour eux, pour trouver le bon match entre ces deux pôles de réflexion-là. Donc, est-ce que tu veux, par exemple, faire du one-to-one ou travailler en groupe? Est-ce que tu veux faire des lives, de la visio ou du pré-enregistré? Est-ce que tu as besoin de voir les gens? Est-ce que, par exemple, si tu veux faire, admettons, des workshops en ligne pour apprendre à faire le headstand, peut-être que tu as besoin de voir ces gens à minima 4 fois, 5 fois ou 6 fois. Donc dans ce cas-là, ça va peut-être être une série d'ateliers que tu vas créer. Et toutes les 6 semaines, tu redémarres sur une nouvelle série d'ateliers. C'est des cohortes en fait. Et donc, tu feras toujours la promotion de tes ateliers pour réussir à faire le headstand. Tu feras cette promotion-là pour ces ateliers toute l'année. Toutes les 6 semaines, parce que tu sais que tu as besoin au moins de 6 ateliers de 2 heures pour faire progresser ou pour que les gens atteignent un résultat sur cet item-là. Ça peut être aussi combien de temps vont durer tes cours. Est-ce que tu veux donner des cours de 30 minutes, de 45 minutes, de 1 heure, de 1 heure et demie, ou est-ce que tu veux justement plutôt t'orienter que sur des ateliers, que sur des retraites, etc. Et ainsi de suite. Voilà, donc toutes les questions que tu peux te poser sur à quelle heure tu veux donner tes cours, à qui, en one-one, en collectif, en ligne, en présentiel, est-ce que tu as besoin de voir les gens plusieurs fois ou pas, est-ce qu'ils doivent, enfin voilà, toutes ces questions-là pour définir tes offres, enfin ton offre principale ou tes offres, et puis du coup pouvoir commencer à dessiner un petit peu un emploi du temps, comment et combien tu vas travailler. Si j'ai une recommandation par rapport à ça, si tu démarres, je te recommande, quoi qu'il en soit, de proposer du one-to-one. D'abord parce que ça peut-être aussi plus rapidement, vu le tarif à l'heure d'un cours en one-to-one, être rentable pour toi, hein, selon où est-ce que tu donnes tes cours, si tu as beaucoup de déplacements ou pas, si tu le fais en ligne ou autre. Ça peut être une formule assez rentable rapidement, mais c'est aussi et surtout parce que ça va te permettre toi aussi d'affiner ton enseignement, ton style, de te sentir peut-être mieux aussi si tu es avec une seule et même personne, de voir aussi comment elle évolue, les retours qu'elle te fait. Donc c'est vraiment le meilleur moyen. C'est vraiment le meilleur moyen pour te connaître mieux toi et développer ton enseignement, ton unicité, et le meilleur moyen pour connaître aussi mieux tes élèves ou les élèves avec lesquels tu résonnes le plus. Donc je te conseillerais ça, et puis quelques cours collectifs quand même, peut-être en ligne par exemple. donc voilà, en tout cas je te recommande, quoi qu'il en soit, du one-to-one. Ensuite, troisième étape, on va déterminer ton prix. Alors là, on va avoir on va avoir plusieurs steps pour déterminer ton prix. Donc déjà, la première chose, c'est de déterminer ce dont tu as besoin pour vivre. C'est-à-dire, toi, dans la poche, il te faut combien pour vivre, pour manger, pour dormir, pour ton loyer, pour éventuellement tes week-ends ou des vacances ou les choses que tu as prévues. Voilà, alors sans peut-être, bien évidemment qu'il faut avoir de l'ambition, mais il faut aussi que tu sois raisonnable, tu démarres ton activité. Donc ni une fourchette trop basse, évidemment une fourchette trop haute, mais qui pourra très vite être revue à la hausse sans souci. Donc voilà, en tout cas, être honnête avec ce dont tu as besoin pour vivre convenablement. Deuxième étape, on va venir ajouter à ça, à ce revenu que tu vas te verser, on va venir ajouter toutes les dépenses annexes qui vont être liées à ton activité. Donc, est-ce que justement tu vas investir dans certains logiciels? Est-ce que tu as des abonnements? Est-ce que tu as du coût de matériel? Est-ce que tu as des frais de déplacement? Est-ce que tu as une frais de location de salle, pourquoi pas, ou autre? Est-ce que tu dois acheter du matériel? Alors, même si l'achat de matériel, ça va être ponctuel, mais on s'en fiche, on l'intègre dans une enveloppe, en fait, on va dire, de coûts. Est-ce que aussi tu as des frais par rapport à ton statut? Est-ce que tu vas devoir verser des taxes, etc.? Et là, du coup, en ajoutant ce poste-là de dépenses, que ce soit donc investissement matériel, logiciel, taxes, frais, etc., tu vas avoir finalement ton objectif de chiffre d'affaires annuel. Ok, donc la première chose qu'on a calculée, c'est ce dont tu as besoin pour vivre, donc c'est combien tu vas te payer. Et la deuxième chose qu'on a calculée, c'est ton objectif de chiffre d'affaires annuel. Et donc on ne confond pas, bien évidemment, le chiffre d'affaires avec le salaire. Alors, à partir du moment où tu as calculé maintenant ton chiffre d'affaires, on va venir diviser ton chiffre d'affaires par 50. Alors, pourquoi 50? Parce que c'est à 2 semaines près le nombre de semaines qu'il y a dans une année. Alors, si tu sais déjà que tu vas prendre 6 semaines de vacances, eh bien, tu peux prendre 52 moins 6 et puis diviser par ce nombre-là. Je te propose de diviser par 50, c'est un chiffre rond, mais après, à toi d'ajuster en fonction de ce que tu connais de ton avenir à venir. Et donc, l'avantage, c'est que ça va te donner un objectif de revenu hebdomadaire par semaine, ce qui est beaucoup plus facile à suivre. C'est un petit peu comme quand on se définit des objectifs, de les découper en actions, en tâches à réaliser pour atteindre ce plus gros objectif. Et ben là, de la même façon, le fait de diviser par le nombre de semaines, ça va te permettre d'avoir un objectif plus facile finalement à atteindre, mais aussi plus facile à suivre. Et puis moi, j'aime bien l'idée aussi de se dire, ben voilà, si je sais que je dois faire, admettons, 500 € de chiffre d'affaires par semaine et que j'en suis à 400 le vendredi, peut-être que je peux dégainer une offre de dernière minute en ligne ou autre pour proposer quelque chose qui va me permettre d'atteindre mon objectif. Donc ça permet aussi d'apprendre à gérer un petit peu ses revenus et d'aller chercher ses objectifs. Ensuite, par rapport à ça, donc ça va te donner un chiffre effectivement donc de chiffre d'affaires à réaliser par semaine. Tu vas pouvoir faire aussi des calculs, à savoir donc combien de cours il faut que tu donnes pour atteindre cet objectif de chiffre d'affaires selon tes cours, selon si tu as des cours collectifs, des cours privés ou quoi. Ça va déjà te dessiner un petit peu un planning, te donner une idée soit du nombre de cours qu'il faut que tu fasses, soit du nombre de clients peut-être qu'il faut que tu touches, et puis aussi du mix en fait de tes offres, hein. Enfin, c'est-à-dire voilà combien il faut idéalement peut-être de clients en privé versus de cours collectifs. Et versus pourquoi pas, parce que c'est peut-être là aussi que tu vas t'apercevoir que si tu avais un revenu en ligne de manière un peu plus récurrente, avec par exemple un programme que tu pourrais vendre à plusieurs milliers de personnes, ou voilà un atelier en ligne ou autre pour venir compléter d'autres choses, bah, c'est peut-être là que tu vas avoir l'intérêt aussi voilà de créer un produit en ligne. Donc il faut aussi que tu t'assures que tu blindes pas ta semaine hein, de cours déjà pour toi, pour ton bien-être, et aussi eh bien tu as de l'administratif à faire, tu dois avoir du temps pour promouvoir tes cours, donc créer du contenu, créer des appels à l'action pour présenter tes offres, et puis aussi peut-être voilà des déplacements, des rendez-vous, des choses comme ça. Donc en fonction de l'objectif de chiffre d'affaires que tu dois atteindre par semaine et puis des offres que tu as définies dans l'étape précédente, regardez un petit peu comment tout ça match. Maintenant, si tu t'imagines que ton planning est plein hein, à 100%, que tes cours sont bookés à 100%, eh bien, ça va te permettre du coup maintenant de te dire « Ok, alors combien je dois charger pour mes cours privés, pour mes classes collectives pour atteindre l'objectif de revenu annuel que je me suis fixé ?» Ok, donc ça va t'aider et te permettre de définir des prix entre guillemets rentables, c'est-à-dire qui vont à la fois te permettre de savoir combien de cours tu dois assurer, mais aussi te permettre de savoir ce que tu dois donner comme cours et à quel prix tu dois les tarifer pour en vivre correctement, et du moins en tout cas pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé au début. Voilà, donc ça c'est, on va dire, les 5 étapes que tu peux faire dans un premier temps de manière assez simple pour déterminer ton prix. Donc je récapitule, combien tu as besoin de, on va dire, de salaire, combien tu veux te payer annuellement, combien tu dois faire de chiffre d'affaires pour prendre en compte tes coûts, tes dépenses et en même temps donc ton salaire qui est une dépense. Ensuite, diviser tout ça par 50 ou en tout cas le nombre de semaines que tu penses travailler pour te donner un objectif plus atteignable de manière hebdomadaire. Regarder en fonction de ça quel va être finalement ton planning de cours pour atteindre tes objectifs et à quel prix du coup tu dois charger tel type de cours ou tel client particulier ou combien de clients d'ailleurs tu dois toucher aussi pour que ce soit rentable et pour que tu atteignes tes objectifs. Et là encore, peut-être que c'est là où tu vas voir l'opportunité et l'intérêt de créer quelque chose qui peut se vendre en ligne de manière récurrente. Voilà, une fois que tu as fait tout ça, eh bien, tu peux te dire que le jour où tu arriveras à cet objectif, tu auras ensuite deux solutions. Donc, soit tes cours seront vraiment complets, tu n'auras plus de créneaux disponibles, entre guillemets, et donc ce sera le moment d'augmenter tes prix pour augmenter tes revenus en travaillant le même nombre de temps. Soit cet objectif de revenu que tu te fixes, il est suffisant pour toi et t'as pas forcément l'ambition de le développer dans les années à venir. Ça serait vraiment l'objectif de revenu idéal pour toi. Et auquel cas, le jour où t'arriveras à remplir toutes tes missions, tous tes cours et à rentrer cet objectif-là, ça pourrait être aussi l'occasion d'enlever quelques cours, pourquoi pas, ou d'alléger ton planning pour avoir encore plus de temps pour toi et pour vivre. Voilà, donc ça c'était pour la partie déterminer tes prix. Et enfin, la dernière chose à faire, donc qui est une partie pour le coup où là dont je parle beaucoup plus souvent et où tu peux trouver beaucoup plus de contenu là-dessus, c'est de choisir ta plateforme de prédilection, ton réseau social de prédilection, celui sur lequel tu vas mettre 100% de ton énergie pour te faire connaître, qui va te servir de vitrine, où tu vas promouvoir tes cours, où tu vas attirer les clients. Celui sur lequel tu vas dire à tout le monde voilà, vous pouvez me trouver ici, vous pouvez me contacter ici, etc. Alors non, c'est pas forcément Instagram, c'est-à-dire que oui, il y a de fortes chances que 90% des clients que tu vises se trouvent sur Instagram et utilisent ce réseau, mais ça peut être aussi une plateforme de contenu comme YouTube, ça peut être aussi tu peux avoir une stratégie qui est plutôt de te dire, alors même s'il te faudra une plateforme, mais d'être invité beaucoup sur des podcasts, sur des lives, sur des interviews sur YouTube, de faire des articles invités, etc. Donc tu peux aussi beaucoup miser sur être invité en fait, hein, et donc sur tout ce qui est collab finalement pour ta visibilité. Mais il te faudra quand même un point de chute, donc un compte Instagram, un compte Facebook, une chaîne YouTube, un podcast. Moi c'est ce que je fais, hein, donc j'ai choisi. Alors j'ai le podcast et Instagram. Mais tu peux tout à fait choisir dans un premier temps une chaîne principale, une plateforme principale où vraiment tu vas mettre toute ton énergie à la fois pour délivrer ton expertise et ton expérience et en même temps pour créer du contenu qui va attirer de potentiels clients et donner envie de travailler avec toi. Donc, dans ce business plan simplifié, on a donc la réflexion autour de notre niche, on a la réflexion autour de nos offres, comment on veut travailler, on a la réflexion autour de nos prix et on a la réflexion autour de notre plateforme de prédilection sur laquelle on va communiquer à 100%, sur laquelle on va être focus pour ne pas disperser notre énergie et du coup récolter des miettes. Troisième étape, ça va être bien évidemment tout ce qui est visibilité grâce aux autres, hein, donc tout ce qui est networking et tout ce qui est connexion avec les autres. Pourquoi ? Parce que tu as besoin des autres pour développer ton business. Ne fais surtout pas l'erreur de rester toute seule dans ton coin à publier des posts ou des stories ou même des reels Instagram. Ça ne suffira pas. Tu as besoin de te faire connaître auprès des autres pour étendre ton réseau, pour étendre ton reach, comme on dit en ligne. Donc la première action que je te propose, c'est très simple, mais souvent quand on se lance dans une activité, on le fait pas forcément, c'est vraiment d'inonder tout le monde, de prévenir tout le monde que maintenant t'es prof de yoga, que tu donnes tel type de cours, qu'on peut te trouver à tel endroit, qu'on peut te contacter là pour prendre rendez-vous avec toi, pour prendre des cours avec toi, pour avoir un échange téléphonique avec toi ou autre. Donc là, tu te poses pas de questions, les plateformes sur lesquelles t'es présente actuellement, tu communique à fond là-dessus et puis tu prends aussi ton répertoire, t'envoies des SMS dans ton répertoire téléphonique, t'envoies des mails dans tous les gens que tu peux avoir en contact, email, même sur ton mail personnel, on s'en fiche. Il faut vraiment que tous les gens soient au courant de ton activité en ligne, que ce soit des gens de ta famille, de ton ancien job, des amis, enfin peu importe, parce que ça va te permettre de développer ce qu'on appelle le bouche à oreille à un moment donné, et puis peut-être que, enfin tu verras très forcément des retombées de gens qui vont dire ah bah tu t'es devenu prof de yoga, ça m'intéresse, comment on peut faire pour travailler ensemble, je prendrais bien un cours avec toi, etc., etc. Donc ça, première chose à faire, annoncer que tu es devenu prof de yoga à tout le monde, ne serait-ce que faire ça, t'auras forcément des retombées. Deuxième chose à faire, faire une petite étude de marché. Alors, le mieux que je te conseille, c'est d'avoir des conversations avec les gens. Donc, si tu as des gens dans ton entourage qui s'intéressent au yoga, si tu as des gens à qui tu as déjà donné des cours, que ce soit tes collègues de promo, que ce soit des amis, que ce soit de la famille, etc., tu peux déjà discuter avec eux pour savoir quels sont leurs principaux problèmes dans leur quotidien aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent à résoudre, qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit, si le yoga pouvait les aider, quel type de cours ils aimeraient, peut-être aussi quelles sont leurs peurs par rapport à ça, etc., à quel moment ça pourrait être le mieux pour eux. Est-ce qu'ils préféraient pratiquer chez eux ou en vrai, ou pouvoir avoir une discussion, un feedback sur leur yoga ou quoi. Leur demander aussi où est-ce qu'ils passent leur temps quand ils sont en ligne, c'est-à-dire que justement par rapport à leur problématique, où est-ce qu'ils vont chercher des informations, ou alors tout simplement par rapport à leur loisir, à ce qu'ils aiment, sur quel type de réseaux sociaux, est-ce qu'ils sont plutôt vidéo YouTube, j'écoute des podcasts ou je scrolle sur Instagram. Où est-ce qu'ils passent leur temps aussi offline, hein, c'est-à-dire dans quel type d'événements ils vont, ça ressemble à quoi leur week-end, est-ce qu'ils sont peut-être très nature, très ceci, très cela, parce que tout ça, c'est des éléments que tu vas pouvoir après intégrer dans ta communication. Et puis, quels sont les mots exacts qu'ils utilisent quand ils te parlent, et ça, c'est aussi important quand ils te parlent de leur challenge, de leur objectif, de leur désir. C'est hyper important de bien noter, retenir les mots exacts qu'ils utilisent pour toi aussi les réutiliser dans ta communication. Donc voilà, je te conseille de privilégier tout ce qui est conversationnel pour récolter un maximum d'informations et comprendre quels sont les besoins de ton client idéal, même si au début tu as une niche assez large. Du coup, c'est comprendre pourquoi les gens viendraient au yoga, comment ils pourraient venir au yoga, quels sont leurs problèmes, et toi ensuite tu pourras proposer le yoga comme une solution et comme un outil. Par rapport à leurs problèmes dans leur vie, parce que peut-être que toi tu sais que le yoga peut aider dans cette situation-là. Donc quoi qu'il en soit, que tu sois niché ou pas encore niché, tu vas pouvoir aller récolter de l'information qui va te servir dans ta communication, dans tes offres, dans comment créer du contenu, parler à potentiellement aux clients que tu veux attirer. Donc c'est ça que j'appelle une petite étude de marché. Bien évidemment, si tu ne sais pas à qui parler, tu peux aussi aller chercher à récolter des informations en ligne, par exemple dans des groupes Facebook dédiés au yoga ou dédiés à une thématique que tu souhaites explorer avec ton yoga. Ou encore, tu peux aussi regarder les livres, par exemple, qui existent sur ce sujet-là, ou pourquoi pas les films, les documentaires, etc., et voir ce qu'on traite comme sujet dedans, quels sont par exemple, si c'est un livre, les chapitres du livre, parce que forcément, imagine bien que si quelqu'un a décidé un jour d'écrire un bouquin sur la thématique qui t'intéresse, il a aussi ou elle a aussi, l'autrice, fait des recherches en amont pour savoir à quoi elle devait répondre et ce qui allait attirer le potentiel lecteur vers son livre. Donc tu peux tout à fait aussi mener l'enquête en ce sens, et puis si tu as déjà la chance d'avoir une petite communauté ou autre, bien évidemment, tu peux abuser des sondages et des enquêtes. Dernière action, ça va être tout simplement effectivement de contacter des partenaires qui peuvent être stratégiques pour toi. En général, quand on cherche à proposer, alors donc pour faire des collaborations, alors au début c'est souvent aussi proposer ses services gratuitement, mais l'idée c'est d'aller chercher des personnes ou des organisations, ça peut être des endroits, ça peut être des établissements ou autres, des restaurants, des commerçants, mais aussi en ligne ça peut être des entreprises qui parlent de ce sujet-là et puis qui ont une présence en ligne ou autre. Et puis, donc vraiment le principal, quand on est dans cette démarche de visibilité et de collaboration, c'est de rechercher des personnes ou des organisations, des établissements, donc qui ont une audience pertinente pour toi. Donc, soit une audience similaire à celle que tu cherches, aux gens que tu veux avoir dans ta communauté, soit voilà, complémentaire, ou mais en tout cas que ce soit pertinent pour toi. Ne perds pas ton temps à aller donner des cours de yoga gratuits parce qu'on te le demande et que tu te sens honoré et que du coup tu dis oui à tout parce que tu démarres, et finalement ces gens-là, c'est pas forcément ton client idéal, ou c'est pas forcément des gens avec lesquels tu connectes, ou c'est pas forcément des gens qui derrière seront intéressés de continuer et d'en savoir plus et de travailler avec toi. Donc on va toujours essayer de se dire, enfin la question à te poser, c'est est-ce que l'audience de cette personne, les personnes qui suivent cette personne, les clients de cette personne, le public de cette personne ou de cet établissement ou de cette entreprise, c'est des clients potentiels pour moi demain? Ok, donc ça c'est vraiment hyper important, et à partir de là, eh ben effectivement l'idée c'est de savoir ce que d'aller les démarcher en leur proposant quelque chose que tu peux leur apporter, hein. C'est tout l'objet de ce qu'on a vu dans les masterclass visibilité cet été. Voilà, de savoir comment tu peux apporter de la valeur à ces personnes-là. Et dis-toi bien qu'en tant que prof de yoga, donner un cours de yoga, même de 20 minutes, c'est déjà apporter de la valeur. Donc tu as de la valeur entre les mains, ça c'est non négociable. T'as même pas besoin de te poser la question. Mais après, voilà, apporter de la valeur, c'est déjà apporter un cours de yoga. Après, selon la personne que tu démarches, l'idée, ça va être d'apporter quelque chose qui apporte de la valeur à sa communauté, à ses clients, à son audience. Donc des fois, il faudra peut-être réfléchir un petit peu plus loin. Par exemple, voilà, si tu veux proposer un cours de yoga pour les femmes qui ont la ménopause, et que tu démarches un compte d'une femme, par exemple, un peu influenceuse, qui s'adresse à une catégorie de femmes autour de la cinquantaine, plutôt pour qui est plutôt sur la niche de la perte de poids, eh bien du coup ton cours de yoga devra être adapté par rapport à la perte de poids. C'est-à-dire que tu vas dire, bah voilà, à la ménopause, comment perdre du poids grâce à tel type de respiration, de cours de yoga, etc., qui vont plutôt travailler par exemple sur le renforcement de la ceinture abdominale. Enfin voilà, je dis des choses complètement au hasard, mais voilà, tu vas forcément aller démarcher cette personne-là en lui proposant de la valeur, qui est donc ton cours de yoga gratuit pour sa communauté par exemple en ligne, et en spécifiant que du coup tu peux très bien adresser la thématique qui la concerne, c'est-à-dire par exemple la perte de poids. Voilà, donc ça c'est super important d'aller te faire aider des autres, en fait, de, comme on dit, faire en sorte que les autres parlent de toi pour t'aider à développer ton business. Mais forcément, pour que les autres parlent de toi, ça part à la base de ton initiative à toi, de te faire connaître et d'aller vers les autres. Donc la différence, hein, entre l'étude de marché et le networking, c'est que l'étude de marché va te permettre de comprendre les besoins et ce que tes potentiels clients veulent, là où le networking, en fait, c'est plutôt supporter finalement et collaborer avec des collègues, des mentors, des personnes autour de ta thématique pour te faire connaître grâce à eux et te faire connaître de leur audience. Le dernier point, ça va être du coup donc d'aller chercher tes premiers clients, et au-delà de cette stratégie, on va dire, de contenu et de communication, ben, ça va être aussi de mettre en place un système pour faciliter la manière dont tu vas servir tes clients. Donc, par exemple, mettre en place un système de réservation pour tes cours, mettre en place un système de paiement en ligne, mettre en place un système d'email qui envoie automatiquement par exemple, les rendez-vous sur Zoom, mettre en place un système, peut-être aussi, si tu veux offrir des cours préenregistrés, ben, une plateforme où tes clients, ils vont pouvoir atterrir et retrouver ces vidéos préenregistrées. Ça va être aussi peut-être mettre en place un système pour que tes clients puissent télécharger un document qui présente ton offre, comme une page de présentation, comme une page de vente. Mais tu peux faire ça sous forme de ce qu'on appelle un freebie, un lead magnet, en fait, qui va te permettre de capturer les adresses mail de tes clients en échange de leur envoyer, bah voilà, ton planning, ce qu'il y a dans tes cours, etc., etc. Ça peut être aussi ça. Donc, en tout cas, ça va être de réfléchir, voilà, à ton système pour servir en réalité tes clients. Et là, le point que j'aimerais aborder ici, c'est d'encourager au début l'appel, en fait, l'appel avec toi, donc le call, hein, l'appel téléphonique avec toi, pour que tu convertisses encore mieux. En fait, la conversion sur les réseaux sociaux, elle est infime, c'est-à-dire le nombre de personnes qui te suivent, qui vont devenir tes clients, si tu es uniquement, par exemple, sur un réseau social, alors selon ton domaine d'activité, bien entendu, mais c'est des conversions du type 0, quelque chose. Par mail, si tu as déjà une liste d'abonnés et que tu envoies tes offres, ça va être un taux de conversion qui peut aller jusqu'à 4, 5, 6, 8%. Après, ça dépend aussi de ton nombre d'abonnés dans ta liste email. Le taux de conversion, plus ta liste email est grande, plus ton taux de conversion diminue forcément. En revanche, les appels téléphoniques, tu peux espérer, alors surtout au début, si t'es pas très à l'aise avec l'exercice, mais tu peux déjà espérer à minima un taux de conversion de près de 25 à 30%. Donc en fait, pour démarrer, ça peut être idéal d'opter pour ce type-là, ce moyen-là de rentrer en contact avec tes premiers clients, surtout si tu n'enseignes pas en studio par exemple, mais si vraiment tu veux donner tes propres cours particuliers et quelques cours collectifs ou quelques workshops, ça peut vraiment être intéressant de proposer dans un premier temps aux gens, s'ils veulent savoir si c'est fait pour eux, de pouvoir prendre un appel de 10 minutes avec toi pour faire le point. Et toi, cet appel, en fait, il va te permettre aussi, donc t'es pas là directement pour vendre ton offre, il va te permettre aussi de découvrir pourquoi la personne elle est venue vers toi, de quoi elle a vraiment besoin, quelles sont ses attentes, et puis ensuite, effectivement, toi, comment tu peux y répondre et l'orienter vers le cours particulier, collectif ou le workshop que tu proposes qui est le plus adapté pour elle. Mais vraiment, au tout début, si tu veux trouver aussi tes premiers clients de manière assez concrète, je te recommande de mettre en place un calendrier d'appel découverte. Ça peut, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça ne nuira pas et ça te permettra d'avoir des échanges concrets avec tes clients potentiels. Donc, tout ça pour résumer, par rapport au système, alors moi je te conseillerais de mettre en place Systemio parce que je trouve que pour commencer c'est vraiment l'idéal parce que c'est en un seul outil tu peux tout faire et c'est l'outil qui reste le moins cher du marché aujourd'hui et qui en plus est en français, donc quand on n'y connaît rien en technique et qu'on appréhende un peu, ça facilite les choses. Tu vas pouvoir gérer ta liste email dessus, tu vas pouvoir créer des pages de capture pour récolter des adresses mail, tu vas pouvoir faire des encaissements, tu vas pouvoir héberger des vidéos ou des ressources, enfin voilà, tu vas pouvoir vraiment tout faire avec ce seul et même outil, héberger aussi tes replays, etc. Et à côté, je te propose l'option Calendly qui va te permettre de mettre en place des systèmes de réservation de cours avec des groupes limités ou pas, des paiements directement en ligne, des envois de liens pour se connecter sur Zoom par exemple, ou des messages automatiques pour rappeler le cours à telle heure, etc. Et aussi donc la possibilité justement de mettre en place ces fameux appels découvertes sur lesquels tu pourras communiquer à outrance pour échanger avec les gens. Donc certes, des appels découvertes, ça prend du temps au début, mais de toute façon, si tu n'as pas de clients ou pas beaucoup de clients, eh bien tu as aussi le temps d'aller chercher ces nouveaux clients via ces appels découvertes. Donc je te recommande d'essayer si tu n'as jamais fait ça encore, et tu verras, tu vas obtenir vraiment des résultats, c'est certain. Et je serais curieuse d'ailleurs que tu viennes m'en parler si tu le mets en place, ça m'intéresse. Donc voilà, n'hésite pas aussi à côté de ça. En plus de ce système, à effectivement te faire des listes de gens donc potentiellement avec lesquels tu peux travailler gratuitement en échange peut-être de feedback ou de références, une liste de gens avec lesquels tu pourrais travailler qui seraient intéressés pour travailler avec toi. Pour le coup là, de manière payante. Une liste de gens aussi avec lesquels tu pourrais collaborer et qui pourraient donc te permettre d'étendre ta visibilité. Et puis, dernière étape du coup dans ce process, ça va être, une fois que tu auras donné tes premiers cours et touché tes premiers clients, de collecter un maximum de témoignages et de références. Puisque ça va être super important ensuite que tu puisses les partager donc sur ta plateforme où tu as décidé d'être présente en ligne, pourquoi pas aussi des fois dans tes mails, ou encore voilà, si par exemple t'as un business, un Google Business ou choses comme ça, c'est hyper important d'avoir de la preuve sociale et d'avoir des témoignages. Et donc ça, c'est la dernière étape, je dirais, dans les premières étapes pour te lancer en tant que prof de yoga, de commencer à développer ton activité et d'avoir ces premiers retours-là qui, en fait, in fine, après, vont créer l'engouement et vont faire boule de neige. Donc voilà, on a fait le tour pour cette première étape. Donc comme je t'avais dit, hein, c'est des choses assez simples, mais que tu peux mettre en place step by step, qui te donne déjà un bon guide, un bon plan d'action pour démarrer. Et puis après, tu te laisseras surprendre aussi par les opportunités de la vie. En tout cas, moi, ce que je te conseille, donc une fois que t'as réussi à mettre un petit peu tout ça en place et que t'avances dans tout ça, c'est déjà de célébrer ces premières étapes. Dis-toi que si tu démarres aujourd'hui et que tu suis bien quelque part un petit peu ce process, eh bien peut-être que tu auras déjà fait plus que certains profs de yoga qui un peu se dispersent, s'éparpillent, ont pas vraiment de stratégie et de méthode pour convertir leurs premiers clients, des systèmes qui simplifient l'expérience de ton élève. Des cours qui sont bien ciblés en fonction d'une thématique et des problématiques de la personne à résoudre et ainsi de suite. Donc, tu auras déjà fait beaucoup de choses que d'autres n'ont pas fait. Et après, il s'agit de continuer le momentum et d'aller plus loin. Donc, de continuer toujours le conversationnel avec tes potentiels élèves pour toujours mieux les connaître. On finit d'ailleurs normalement par mieux connaître notre élève idéal qu'il ne se connaît lui-même. En tout cas, on arrive à mettre les mots sur ce dont il a vraiment besoin. Ensuite, effectivement, de créer des routines un petit peu avec tout ça, de prendre l'habitude de toujours entretenir ses collaborations, par exemple, de réaménager peut-être aussi ton emploi du temps. De prendre bien évidemment du temps pour toi et de faire régulièrement le point sur tes chiffres, sur ce qui se passe et sur tes objectifs par rapport à tes objectifs hebdomadaires et donc mensuels qu'on s'est fixés dans la partie pour déterminer tes prix. Donc voilà, et ensuite tu seras probablement prêt à passer au step suivant et peut-être à créer un vrai empire en ligne par exemple, et je serai là pour t'accompagner à ce moment-là. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail, un petit DM sur Instagram ou à partager l'épisode en story. Et puis tu peux aussi bien évidemment, et j'apprécierais beaucoup, me laisser une note 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça prend quelques minutes seulement et c'est super important pour moi. Et ça me fait vraiment plaisir de lire à chaque fois en quoi ces épisodes de Yogi Biz Podcast peuvent vous être utiles pour développer votre business et vivre de votre passion. Yogi Biz Podcast, c'est donc fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.